VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 21 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedulia et Anne Albotson. Tout d'abord, les titres.
À Washington, le Sénat ne veut pas d'un durcissement des lois sur les armes à feu. Il a voté non.
En République centrafricaine, 6 personnes auraient été tuées au quartier PK5 de Bangui, selon notre correspondant sur place.
À La Haye, la Cour pénale internationale prononce aujourd'hui la peine à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais.
En République démocratique du Congo, épidémie de fièvre jaune dans 3 provinces du pays.
En Syrie, le groupe État islamique a chassé les forces gouvernementales de la province de Raqqa.
Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Ici à Washington, pas de surprise, donc le Sénat, à majorité républicaine, a rejeté hier un durcissement des lois sur les armes à feu. Il avait été proposé par les démocrates après la mort de 49 personnes à Orlando, en Floride, dans la pire fusillade de l'histoire récente des États-Unis. Des détails avec Jean-Roger Bion.
En pleine campagne électorale à un mois des conventions d'investiture présidentielle, il semblait improbable que les parlementaires s'accordent subitement sur l'un des sujets les plus brûlants de la politique américaine dans l'impasse depuis des années. Désireux toutefois de réagir après le massacre de 49 personnes, la majorité avait programmé des votes sur 2 propositions de loi ainsi que sur 2 textes concurrents des républicains. Mais chaque groupe a voté presque unanimement contre les propositions de l'autre. Le 2e amendement de la Constitution sur le droit de détenir des armes est un droit fondamental et toute action législative doit prendre en compte cet état de fait, a déclaré le sénateur républicain Chuck Grassley. Ce soir, le Sénat a tourné le dos aux victimes d'Orlando et de San Bernardino, de Newton et de Chicago, a déploré le démocrate Dick Durbin. Pourquoi? Parce que trop de sénateurs n'ont pas les tripes de dire non à la NRA. La National Rifle Association est le lobby des armes.
L'actualité en Afrique maintenant. En République centrafricaine, on signale au moins 6 morts et plusieurs blessés au quartier PK5 de Bangui, où il y a eu hier un échange de tirs nourris. Et 6 policiers étaient retenus en otage par des hommes armés de Bangui. Notre correspondant Freeman Sipila fait le point.
Selon des sources contactées par VOA Afrique au PK5, les accrochages de ce lundi après-midi ont fait au moins 6 morts et plus d'une dizaine de blessés dans le camp des assaillants. Une autre source proche du gouvernement a parlé quant à elle d'un blessé côté MINUSCA, expliquant que les soldats de l'ONU ont été pris à partie par le même groupe des hommes armés qui ont kidnappé dimanche 6 policiers centrafricains dans le 3e arrondissement. Toute la nuit, le secteur PK5 a été quadrillé par les forces de la MINUSCA. Un calme relatif y a régné. Mais la tension est toujours vive. Les 6 agents de la police retenus en otage seraient toujours en vie et entre les mains de leurs ravisseurs. Les ravisseurs qui conditionnent leur relâchement à la libération de 4 personnes suspectes arrêtées samedi à la sortie nord de Bangui par la police et maintenues dans les locaux des services de sécurité pour nécessité d'enquête. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
C'est aujourd'hui que la Cour pénale internationale va prononcer à La Haye la peine à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais, reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Cette peine, qui doit être annoncée à 11h45 temps universel par 3 juges en audience publique, sera la première rendue contre un ancien vice-président dans l'histoire de la Cour.
Riche homme d'affaires, devenu chef de guerre, Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable le 21 mars de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003.
En Côte d'Ivoire, reprise hier du procès de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame a catégoriquement nié avoir été en contact avec des escadrons de la mort. Tatiana Mosso.
L'audience doit se poursuivre aujourd'hui avec l'intervention des avocats à la défense de Simone Gbagbo. La reprise de son procès hier a coïncidé avec son 67e anniversaire. Joyeux anniversaire, ont scandé une dizaine de partisans à son arrivée au palais de justice d'Abidjan, où elle est jugée depuis le 31 mai. L'ancienne première dame est accusée de crimes contre l'humanité. Elle a plaidé non coupable et a rejeté toutes les accusations. Je n'étais en contact avec aucun escadron de la mort. Je n'aime pas les armes. Je n'ai pas une âme de guerrière, a martelé Madame Gbagbo, ajoutant qu'elle a mené tous ses combats avec sa bouche. Elle comparaît devant la cour d'assises alors qu'elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
En République démocratique du Congo, une épidémie de fièvre jaune a été déclarée dans le pays. La maladie est localisée dans 3 provinces, celle de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Au total, 65 cas ont été enregistrés et 5 personnes ont déjà péri. Le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, a demandé hier à Kinshasa de l'aide pour organiser une campagne urgente de riposte contre cette épidémie. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La République démocratique du Congo est en épidémie de fièvre jaune localisée dans les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Pour faire face à cette situation d'urgence, le pays demande l'appui de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de tous les partenaires pour l'obtention rapide du vaccin anti-amaril en vue d'organiser la riposte vaccinale et limiter ainsi l'extension de l'épidémie. C'est ici, pour moi, l'occasion de rappeler encore une fois à nos populations d'observer les mesures suivantes. Couvrir tous les récipients d'eau de façon à ce que les moustiques ne puissent pas s'y reproduire. Donc j'invite la population à dormir et à faire dormir tous les membres de la famille sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action.
C'était le ministre congolais de la Santé, Félix Kabange Numbi, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, le groupe État islamique a infligé un revers aux forces du régime syrien en les chassant de la province septentrionale de Raqqa. La contre-offensive des djihadistes a fait des dizaines de morts en 24 heures, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les forces pro-régime, appuyées par l'aviation de leur allié russe, avaient lancé le 3 juin une offensive pour s'emparer de la ville clé de Tabqa, dans la province de Raqqa, contrôlée donc par le groupe État islamique.
En Iran, les autorités disent avoir déjoué le plus grand complot qu'aient jamais ourdi les extrémistes sunnites contre Téhéran, la capitale et d'autres parties du pays. Ils accusent ce qu'elles appellent les militants Takfiri d'être derrière ce complot pendant que des médias parlent d'éléments appartenant au groupe État islamique. Selon la télévision d'État iranienne, un certain nombre de terroristes sunnites ont été arrêtés et des explosifs et munitions saisis pendant leur interpellation.
En Grande-Bretagne, le Parlement a rendu hier un hommage à Jo Cox, la députée pro-Union européenne assassinée jeudi dernier. Ce drame a fait perdre du terrain au camp du Brexit à quelques jours du référendum. Claire Morin-Gibourg.
Chaque député avait une rose blanche à la boutonnière pour cet hommage solennel à Jo Cox en présence de son mari et de leurs 2 enfants. Le Premier ministre David Cameron, partisan de l'Europe, a lancé un appel à l'union contre la haine. Nigel Farage, chef du parti europhobe UKIP, a accusé Cameron d'instrumentaliser le meurtre de la députée. Le camp du Brexit avait le vent en poupe, mais connaît ses premières fissures. Une ex-secrétaire d'État aux affaires étrangères, la conservatrice Sayeda Warsi, a fait défection, se disant écœurée par une affiche de M. Farage montrant une colonne de réfugiés avec la mention « Breaking Point », le point de rupture. Michael Gove, ministre de la Justice et l'un des ténors de la campagne Vote Leave, a avoué que cette affiche l'avait fait frissonner. D'après les derniers sondages, les 2 camps sont au coude à coude. Les Britanniques iront aux urnes le 23 juin dans un référendum pour décider de rester dans l'Union européenne ou d'en sortir.
A signalé enfin qu'un citoyen britannique de 19 ans, Michael Sandford, a été inculpé lundi pour avoir tenté de tuer le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump. C'était lors d'un de ses rassemblements ce week-end à Las Vegas, dans l'ouest des États-Unis. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe au sport à présent dans cette émission avec le journal de l'Euro avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour Idrissa.
Incroyable scénario dans le groupe B hier soir et le pays de Galles qui chippe la première place à l'Angleterre.
À l'issue des 90 minutes du match, Anglais et Slovaques se sont neutralisés 0-0. Un résultat qui ne fait pas l'affaire des deux équipes puisque la Slovaquie se retrouve désormais troisième du groupe derrière les Anglais, deuxième. Et ce, en raison de la démonstration galloise, les coéquipiers de Gareth Bale l'ont emporté 3-0 hier à Toulouse. Résumé de ce match avec Jean-Roger Billon.
Pour sa première participation, le pays de Galles s'est qualifié avec la manière. Grâce à cette première place, les hommes de Chris Coleman affronteront un des quatre meilleurs, troisième en huitième, et ne se retrouvent pas dans la partie de tableau des tricolores. Il n'y a pas eu de match à Toulouse. Dominateurs, les coéquipiers de Gareth Bale ont attaqué très fort la rencontre. Aaron Ramsey a trouvé la faille grâce à un très beau ballon piqué devant le portier russe à la 11e minute. Il a été imité quelques minutes plus tard par Neil Taylor. À la 20e minute de jeu, le défenseur bute une première fois sur Akinfeeve, mais voit le ballon lui revenir dessus et conclut du pied gauche 2-0 pour le pays de Galles. La deuxième période ressemble à la première. Les Dragons ne sont quasiment pas inquiétés par la Russie et déroulent. Gareth Bale profite de la confusion dans la défense russe pour placer un extérieur du pied gauche devant le gardien à la 67e minute. 3-0. Bale prend la tête du classement des buteurs avec 3 buts en autant de matchs. La première participation du pays de Galles à l'Euro est déjà une réussite. Les Dragons n'ont pas fini de nous surprendre. Impressionnant, le pays de Galles affrontera le troisième du groupe A, C ou D lundi à Nice. Dernière du groupe avec un point, la Russie, organisatrice de la prochaine Coupe du Monde en 2018, est éliminée de la compétition.
À suivre ce mardi.
L'Allemagne parmi les nations favorites pour la victoire finale de cet Euro 2016, mais la Nationalmannschaft est loin d'être aussi dominatrice que lors du Mondial 2014. Les joueurs de Joachim Löw tardent à convaincre et après un match nul sans but contre la Pologne, ils doivent s'imposer face à l'Irlande du Nord pour assurer la première place du groupe. Présentation de cette rencontre avec notre correspondant en France, Christian Mpanzou.
Toujours très serein en conférence de presse, Joachim Löw reste conscient que son équipe n'a pas encore montré son meilleur visage. Plusieurs secteurs de jeu posent question. Si Neuer est intouchable, la défense devant lui a montré de nombreuses lacunes lors des deux premières rencontres. Certes, Mats Hummels a fait son retour, mais son duo avec Jérôme Boateng, d'habitude très solide, a été largement sollicité par les attaquants polonais qui n'ont eu aucune difficulté à se procurer des occasions. Le milieu de terrain donne beaucoup plus de satisfaction avec Mesut Özil en meneur de jeu et en l'absence du capitaine Bastian Schweinsteiger qui n'est toujours pas totalement remis de sa blessure. Le gros point d'interrogation, c'est l'attaque. Le trio Müller-Draxler-Götze n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Ce sera peut-être le cas contre l'Irlande du Nord au Parc des Princes de Paris, le dernier match de groupe des Allemands. De quoi se rôder avant les huitièmes de finale. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Toujours dans ce groupe C, mardi, l'Ukraine jouera contre la Pologne.
Et puis le groupe D avec l'Espagne déjà qualifiée face à la Croatie et la République tchèque contre la Turquie. Jules Valentin Gouy revient ce matin sur la rencontre entre le tenant du titre espagnol et la Croatie, digne héritière de la Yougoslavie. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonjour. L'épilogue ce lundi dans la poule la plus sulfureuse du tournoi, la poule B, ne doit pas ausculter l'alléchant Espagne-Croatie qui attend les amateurs du beau jeu ce mardi dans la poule D. La qualité des effectifs et des collectifs des deux groupes rappelle que si l'Espagne est depuis deux décennies le creuset du football spectacle en Europe, la Croatie, signe héritière de la spectaculaire formation de Yougoslavie, en est le pendant dans la partie Est du continent. Les deux formations ont d'ailleurs pu démontrer, lors de leur précédente sortie, leur capacité. L'adage sportif est connu. Il faut être deux pour faire un grand match. À ce titre, l'Espagne viendra au complet et en toute sérénité, elle sera au rendez-vous. Mais pour la Croatie, c'est l'équation à double inconnu. Tout d'abord, la belle mécanique croate a perdu par blessure sa pièce maîtresse, Luka Modric. Ensuite, la réaction contre-productive de ses supporters en fin de rencontre contre la République tchèque laisse interrogatif quant à l'état d'esprit du groupe 4 jours après. Alors, aura-t-on le même Espagne-Croatie espéré? La réponse est entre les pieds des joueurs croates qui doivent confirmer, à l'exemple du Brésil des belles années, que les grandes équipes de football sont celles qui ont toujours des solutions de rechange. À demain.
Voilà pour ce journal de l'Euro. Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la question du calendrier électoral continue de diviser la classe politique du pays, tout comme celle du dialogue. Faute de consensus, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, éprouve du mal à préparer les prochaines échéances électorales. Timothée Donangmaï s'est entretenu à ce sujet avec le professeur Onésime Kakatoula Falash, rapporteur adjoint de la Commission électorale de la RDC.
Pour la CENI, ce qui importe, c'est un accord politique qui règle le problème de l'agencement des élections. Parce qu'au Congo, pour le moment, il y a un problème qui se pose. Il y a un camp qui estime qu'il faut commencer le cycle électoral par la base, c'est-à-dire aller de l'élection locale à l'élection présidentielle. Un deuxième camp estime qu'il faut partir du sommet à la base, c'est-à-dire commencer par l'élection présidentielle, aller à l'élection locale. Et il y a au Parlement deux camps également. Vous avez les députés nationaux qui estiment qu'ils ont été élus en 2006 et puis en 2011, pendant que les sénateurs, les députés provinciaux, les gouverneurs sont là depuis 2006. Et donc, les sénateurs estiment qu'il faut commencer par la base et les députés nationaux, pour eux, ils pensent qu'ils viennent fraîchement d'être élus en 2006. Pendant que les autres ont doublé le mandat, il faut commencer par ceux qui sont là depuis 2006. Voilà donc les problèmes qui se posent et devant ces problèmes-là, la CENI attend qu'ils se mettent d'accord pour savoir par où faut-il commencer. Donc il n'est pas nécessaire, à ces jours, de publier un autre calendrier qui sera rejeté par la classe politique.
Dans le même temps, les adversaires du président Joseph Kabila disent qu'il doit partir à l'issue de son dernier mandat. Alors, comment cela va se passer, étant donné qu'on n'a pas de calendrier électoral qui permettrait de choisir son successeur?
Je pense qu'il ne faut pas personnaliser les problèmes. Ici, il n'y a pas que le président Kabila qui est dans ces cas, ou qui sera, pour le moment, il n'est même pas concerné. Il y a d'abord des députés provinciaux qui sont là depuis bientôt 10 ans, les sénateurs et les gouverneurs. Qu'est-ce que ces gens ont attendu? Pourquoi ces gens-là n'ont pas posé ces problèmes? Kabila, il a encore quelques mois. Et d'ailleurs, la Constitution, à mon sens, règle ces problèmes. Parce que la CENI, elle travaille sur base des textes légaux. La Constitution dit que ceux qui sont élus, que ce soit le président Kabila ou les autres, tous les élus qui sont en place partiront lorsque les autres élus vont venir les remplacer. C'est ce que les textes disent. Donc, je pense qu'ils doivent se mettre d'accord et ils doivent, parce qu'ils plaident pour le respect de la Constitution, j'estime qu'ils doivent respecter toute la Constitution, et c'est-à-dire tous les articles. Mais pour la CENI, en attendant qu'ils se mettent d'accord, qu'il y ait un consensus, ils ont déjà tous levé un consensus sur les fichiers électoraux. Voilà pourquoi la CENI avance sur le plan technique avec la révision du fichier électoral.
Le professeur Onésime Kakatoula Falash, rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En République centrafricaine, la situation humanitaire est encore préoccupante sur le site des déplacés de l'aéroport de Bangui. Médecins sans frontières devait réduire hier les critères d'admission dans son seul grand centre de traitement médical sur le site. Certains déplacés se disent abandonnés à leur triste sort. Reportage de Freeman Sipila.
Le site des déplacés de l'aéroport de Bangui-Poko reste aujourd'hui le camp de fortune le plus peuplé de la capitale. Malgré le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays, plus de 20 000 déplacés y vivent encore. La situation humanitaire se dégrade de plus en plus avec la saison pluvieuse. Évariste vit avec sa famille sur le site.
C'est un peu difficile pour nous les déplacer, quoi, parce qu'il y a des autres gens qui ont encore des problèmes de santé. En cas d'intervention rapide, les gens ont des problèmes. Maintenant même, dans la saison pluvieuse, il y a comme des palus, il y a beaucoup de sortes de maladies qui menacent.
Ici, sur le site, MSF est la seule ONG qui s'occupe pour la plupart des cas de la prise en charge sanitaire des déplacés. Dernièrement, raison, l'organisation humanitaire a décidé de réduire la capacité de son service en se focalisant sur des cas jugés importants. Les enfants de 0 à 15 ans sont prioritaires dans les cas graves, notamment le paludisme et les interventions d'urgence. Ces déplacés pensent que les adultes sont abandonnés à leur triste sort. Ils appellent MSF à revoir sa méthode.
Les cas de vieux là, c'est trop fort, c'est très dur mon frère. Il faut passer d'autre part, l'hôpital combattant, Bédé, ou bien 5 kilos, Mamadou Mbaïtou, ou bien Kolpangaba là. Surtout la problème de situation de l'argent là, c'est trop dur. La méthode là, c'est pas bien.
Nous voulons que l'hôpital reste ici et puis tout le monde doit soigner ici, passer l'hôpital pour peuple centrafricain.
Au MSF, les responsables précisent que les adultes ne sont pas mis de côté. Ils sont orientés dans les autres centres de santé existants et opérationnels. Docteur Emmanuel Lampaer, chef de mission MSF Belgique.
Nous avons de plus en plus des cas de paludisme qui sont souvent des cas d'urgence. Afin de pouvoir se concentrer sur toutes ces urgences et avec des moyens qui sont à un moment aussi limités. Nous avons voulu mettre un plafond en termes de volume de consultations par jour. C'est ainsi que tous les cas, moins 15 ans, femmes enceintes, bien évidemment, seront à tout moment consultées. Pour les adultes non touchés par le paludisme, nous allons différer dans le temps. Et également l'orientation et l'information donnée sur l'existence des centres de santé existants.
La situation alarmante dans laquelle vivent ces personnes affectées par la crise préoccupe aussi bien les humanitaires que les nouvelles autorités. Dimanche, le maire de Bangui, Émile Gloré Monakombo, s'est rendu à leur chevet.
Il n'est jamais gai de voir des familles souffrir, souffrir au point de mourir. Ils ont fui la mort et ils viennent ici dans des conditions difficiles.
Freeman Sipila, Bangui.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
Made in Rwanda, une astuce pour changer la balance commerciale du pays. Consommer des produits locaux pour développer le secteur industriel et exporter plus afin d'enrayer le déficit de sa balance commerciale, tel est le nouveau leitmotiv du gouvernement rwandais, nous dit de Kigali notre correspondant Maurice Maguaran.
La balance commerciale du Rwanda représentait un déficit de 10,8 en 2014, ce qui devrait rester stable en 2015 et 2016. Le Rwanda exporte surtout le thé, le café et des minerais. Mais cette année, la chute du prix des matières premières a porté un coup dur pour le Rwanda, comme l'explique M. Martin Korvitz, directeur d'une compagnie minière.
La chute du prix des matières premières qui se sont écroulées depuis novembre 2014 ont réduit de 60% de nos marges. Cela nous a causé des énormes pertes dans le secteur minier.
C'est dans ce cadre que les institutions tant étatiques que privées se sont réunies à Kigali dans un atelier d'échange sur l'accroissement des volumes des exploitations à travers Made in Rwanda. Consommer des produits locaux pour développer le secteur industriel et exporter afin d'enrayer le déficit de sa balance commerciale. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, François Kanimba, explique que les commerçants rwandais parfois se contentent de peu et n'osent pas aller vendre leurs produits à l'extérieur du pays.
Nous voulons que les Rwandais osent aller vendre leurs produits à l'étranger parce qu'en général, les Rwandais se contentent de peu d'argent qu'ils gagnent au Rwanda. Elles ne veulent pas aller se mesurer aux étrangers sur le marché international. C'est pour cela que nous sommes là pour faire en sorte qu'ils osent.
Mathieu Lugamba, c'est un jeune styliste qui voit plus loin. Il a déjà intégré le concept de Made in Rwanda. Il envisage d'élargir ses activités vers l'Afrique de l'Est et l'Amérique du Nord.
Tous les produits que vous voyez dans notre magasin sont à 100% Made in Rwanda. Et nous sommes très fiers de cela. Notre objectif, c'est d'exporter nos produits disponibles au moins en Afrique de l'Est, en Amérique du Nord et une partie de l'Europe.
Le Rwanda exporte surtout le thé, le café et des minerais. Et pour faire face à la diminution de l'aide extérieure, le Rwanda a trouvé en Made in Rwanda le moyen de maintenir l'élan de sa croissance économique nationale à un rythme de 8%. Maurice Maguaran, VOA Afrique, Kigali.
Les musulmans du Niger À l'instar de centaines de millions d'autres dans le monde, observe depuis 2 semaines le jeûne du mois de Ramadan. Mais cette année encore, les Nigériens déplorent la cherté des produits de grande consommation. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa s'est rendu dans un des marchés de Niamey, la capitale.
À l'entrée du marché de Wadata, Salamatu tente vainement de convaincre un vendeur de salade qui veut lui céder seulement 3 pieds à 500 francs CFA. Pour elle, c'est le Ramadan qui serait à la base de cette charité. Son panier à moitié rempli, Halima se désole et lance ceci. Rien n'est abordable à l'intérieur. Lorsque l'on y entre effectivement, la confirmation de la charité des produits est donnée par les revendeurs eux-mêmes qui se justifient tout de même.
Je suis commerçant au marché Wadata. Je vends de la tomate, du poivron, du piment vert et de l'aubergine. Les gens pensent que la hausse du prix vient de notre faute, mais quand tu achètes, tu es obligé de vendre cher pour avoir un petit bénéfice. Le prix des kilos de viande avec os est vendu à 2500 et sans os à 3000. Les clients pensent que c'est cher, mais bien avant le carême, le prix était le même parce que les bêtas étaient chers.
Devant une telle situation et au vu de la période, cette jeune dame lance cet appel.
Le commerçant, je crois que c'est maintenant qu'ils veulent s'enrichir ou quoi. Alors que ce n'est pas le moment. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont des musulmans. On est tous des musulmans. Donc ça va passer, le mois doit passer. Et tout ça qu'on n'a pas eu avant, c'est pas dans ce mois qu'on doit l'avoir.
Le carton de sucre, très demandé aussi en cette période de jeûne, est hors de portée des petites bourses. Il se vend à 25 000 francs CFA, soit seulement 5 000 francs de moins que le salaire minimum interprofessionnel garanti des travailleurs de la fonction publique. Pourtant, dit-on, le Ramadan est une période de bienfaisance par excellence et donc d'allègement. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Au Nigeria, les chefs d'entreprise ont applaudi l'abandon du taux de change fixe. Selon un responsable de la Chambre nigérienne de commerce, d'industrie, des mines et de l'agriculture, la mesure de la Banque centrale qui autorise un taux de change dicté par le marché va siffler la fin de spéculation et de la thésaurisation. La présidente de l'Association des opérateurs du port de Lagos, dont les importations ont chuté de près de 50%, a affiché son optimisme. Un ancien banquier à la tête d'une entreprise de distribution de boissons à Lagos a estimé que la mesure va booster les investissements d'une économie moribonde à cause de la chute des cours mondiaux du pétrole. En revanche, hier lundi, les cours pétroliers ont nettement monté. La faiblesse du billet vers le dollar a profité aux cours pétroliers car étant libéré en monnaie américaine. L'autre raison à cet optimisme, c'est le maintien probable du Royaume-Uni dans l'Union européenne, tel que les sondages du week-end le présagent. Au Brésil, le nouveau gouvernement envisage de saisir le Parlement pour autoriser la vente des terres agricoles aux étrangers. La loi actuelle ne facilite pas l'octroi du crédit par les banques étrangères qui prêtent au Brésil, mais qui n'acceptent pas des terres comme garantie. Cette loi avait été introduite en vue d'éviter la mauvaise expérience de l'Afrique qui a vendu de grands lots de terres à la Chine pour assurer son approvisionnement en céréales. Mais le présent intérimaire, M. Temer, a levé les équivoques, affirmant que le Brésil est différent de l'Afrique. Nous avons des lois, des banques, une politique agraire. Il y a des règles de commerce qui nous protègent, a-t-il précisé.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur la situation politique et sécuritaire au Mali. Il y a un peu plus d'un an, l'accord de paix et de réconciliation d'Alger était signé par le gouvernement malien et des groupes armés. Mais depuis, les actes terroristes n'ont pas cessé de secouer le pays du nord au sud. Comment assurer le retour effectif de la paix? Quels sont les blocages? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Aujourd'hui, VOAF. Afrique en direct de Washington, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.